Pour les bêtes comme pour les hommes, il y a le même sort. Et à cause de cela, si, d'un point de vue humain, on essaye de donner un résumé de ce qui est la vie est vanité. Parce que, enfin, les bêtes et les hommes ont le même sort. Il s'applique à nous instruire dans ce livre sur ce qui se passe sous le soleil. Donc, les occupations d'ici-bas qui absorbent tant notre attention, l'attention des hommes, n'auront plus lieu dans le séjour des morts. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas justement accepter cette idée s'ils sont constants dans leur pensée. Parce que justement, il dit dans le même texte, je crois que c'est dans la deuxième ici, chapitre 9, et c'est verset 5, il parle du fait que « Mais les morts ne savent rien puisque leur mémoire est oubliée. » Mais nous savons que tout homme, soit les témoins de Jéhovah, soit les autres, ils veulent bien que Dieu se rappelle d'eux après la mort. On veut bien que le souvenir de nous-mêmes reste dans l'esprit de Dieu. Alors si on prend cela à la lettre, même pour les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas dans un sens littéral, comme révélation de ce qui passe au-delà. Mais c'est plutôt l'idée que Salomon, dans ce livre, montre la vanité de toutes choses, et c'est à la fin de ce livre qu'il donne la réponse logique et raisonnable qu'il faut chercher la volonté de Dieu, et après cela, il y a une justice. Après cela, il y a une raison d'être pour notre vie. Les témoins de Jéhovah utilisent aussi Ézéchiel 18:4. Quand j'ai lu dans leurs livres et leurs écrits concernant l'âme et la mort, j'ai retrouvé tant après tant ce passage, 18:4. Et quand on lit ce passage, on voit bien qu'ils ont un cas assez fort. Parce que dans ce passage, il parle assez fortement de l'idée qu'il y a la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme, il dit, n'est-ce pas? L'âme qui pêche, c'est elle, c'est celle, l'âme qui mourra. Mais si on suit dans le contexte, et c'est cela ce qui est toujours nécessaire, si on suit dans le contexte jusqu'au verset 27, on a une réponse à cela assez claire. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Alors on voit par ces deux passages que c'est possible d'être mort et d'avoir la repentance et de vivre de nouveau, que l'âme revit. Ça veut dire la vie spirituelle. Si c'est vrai pour verset 27, c'est aussi vrai pour verset 4, dans le contexte, que c'est la mort spirituelle dont il parle ici, et pas la mort physique. L'âme est consciente après la mort. C'est l'affirmation de la Bible. Et on va voir cela dans quelques passages. Et dans ces passages, c'est mieux peut-être de regarder le schéma au milieu de la brochure. J'essaie de montrer par cette brochure une idée schématique, visuelle, ce qui passe pour toute personne. Alors, il y avait la création de l'homme en Éden, il y avait la chute, il y avait par la croix la possibilité de traverser l'abîme de nos péchés, cette séparation de Dieu. Alors, pendant la vie terrestre, si on est désobéissant, on reste séparé de Dieu. Mais si, par la nouvelle naissance, par le fait d'être soumis aux conditions de Dieu concernant le salut en Jésus-Christ, son Fils, on peut traverser cet abîme de la séparation pour avoir une réconciliation avec Dieu. Alors, si on fait cela, à la mort, il y a une transition. Quand il y a la mort physique, Et tout homme va passer par cela, sauf ceux qui sont toujours vivants quand le Seigneur revient. Tout homme passe par la mort, soit dans les tourments, soit dans le paradis, le sein d'Abraham avec Christ. Bon, en disant cela, on entre dans une discussion de ce qui est la parabole, comme les témoins de Jéhovah dit, de Luc 16, ou cette histoire vraie, comme quelques-uns le disent. Mais comme je vais discuter cela dans un moment, j'aimerais simplement ici indiquer qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a quelque chose de conscient après la mort. Et dans cette histoire, on voit que Lazare, qui est le personnage nommé dans l'histoire, il est conscient, pas seulement de son cas actuel, mais de ce qui se passait avant. Il a un souvenir de sa vie terrestre. À cause de cela, il demande un relief de cela, il est accablé par ses tourments, mais il y a cette fois un abîme infranchissable. Et à cause de cela, il n'y a pas une deuxième, ou comme c'était dit ce matin, une troisième possibilité de changer. C'est terminé par la mort physique. Bon, en voyant le schéma, on peut continuer comme on va le faire dans un moment, concernant le jugement et l'état définitif qui est le corps glorifié, le ciel, ou l'étang de feu, l'enfer, la seconde mort. Mais ce que je veux voir maintenant avec tout cela, c'est le fait que la Bible parle assez clairement du fait qu'il y a quelque chose conscient après la mort. Et dans cette histoire de Luc 16, j'ai pensé peut-être on peut le lire, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez lire dans Luc 16, dès verset 19. Et dans cette histoire, on voit au moins ceci. Si c'est une parabole, au moins Jésus a utilisé quelque chose de vrai pour exprimer quelque chose de vrai. C'est-à-dire, Jésus se sert-il de mensonge pour enseigner une vérité? Ce n'est pas vrai avec les autres paraboles, si celle-ci c'est une parabole. Et s'il a fait cela, on a déjà quelque chose d'outil concernant la méthode de Jésus pour enseigner. Moi-même, je suis incliné de penser que c'est une histoire vraie. On utilise un nom, Lazare, on parle d'Abraham, mais même si c'est une parabole, cette parabole exprime une vérité que Jésus utilise dans le contexte pour montrer que pour cette vie ici, il faut un changement, une repentance si on n'est pas réconcilié avec Dieu parce qu'il y a une suite consciente. Maintenant, on pose la question, où sont les morts? Dans le schéma que je vous donne ici, on dit que les morts sont dans un endroit qui est appelé l'état intermédiaire, le séjour des morts. C'est le mot Hadès ou le mot Sheol. Hadès en grec et Sheol en hébreu. Et c'est l'endroit où il y a des âmes désincarnées. Alors comment savoir tout cela? D'abord, c'est cette histoire de Luc 16. Maintenant, dans la brochure, je vous donne l'interprétation donnée par les témoins de Jéhovah de cette histoire. Et en lisant l'histoire et en considérant le contexte, j'aimerais bien que vous fassiez une comparaison entre cette interprétation que je viens de donner concernant un endroit où l'esprit, l'âme est conscient et ce qui est dit par les témoins de Jéhovah. Ils disent, c'est plutôt dans le livre que Dieu soit reconnu pour vrai, par cette parabole, Jésus prononça une prophétie qui commença à s'accomplir en 1919. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que les gens, l'auditoire de Jésus pendant le premier siècle en Palestine, qu'est-ce qu'ils ont entendu par cette histoire? Comment il a compris ce qu'il a dit? Si la prophétie a commencé d'être accomplie en 1919. Et elle s'applique à deux classes de personnes existant aujourd'hui ici-bas. L'homme riche représente la classe du clergé extrêmement égoïste, de la chrétienté, éloigné de Dieu, mort pour ce qui est de la faveur de Dieu et du privilège de le servir. Tourmenté, en outre, par la proclamation des vérités du royaume, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Lazare représente, en outre, le fidèle reste du corps du Christ, les témoins de Jéhovah. Les membres de ce reste, après avoir été délivrés de la Babylone moderne en 1919, sont entrés dans la faveur divine symbolisée par le Saint d'Abraham et sont réconfortés par la parole de Dieu. Je vous laisse avec cela pour faire vous-même vos conclusions. Quelle interprétation est plus juste? Quelle est plus logique si on veut entrer au niveau de la raison? Parce qu'on a ici une histoire très simple, sans explication autrement que ce qui est donné, comme donné dans l'histoire, et on a une interprétation qui n'a rien à faire avec l'auditoire de Jésus il y a 2000 ans. Les hommes continuent à exister dans le séjour des morts. J'aimerais vous donner quelques passages pour cela. D'abord, dans Matthieu 17, 3, nous avons l'exemple de Moïse et Élie. Si on est mort tout à fait, il n'y a pas de conscience après, qu'est-ce qu'on peut dire concernant Moïse et Élie en rapport avec la transfiguration de Jésus? Vous vous souvenez, Jésus était en train de parler avec eux. Mais s'il y avait une inconscience après la mort de ces deux personnages, comment parler avec eux? Jésus et Moïse et Élie. Dans Matthieu 22, 32, on a ce passage. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Pour Jésus, en disant cela, il voulait dire que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants. Alors si, quand on meurt, on est tout à fait mort, sans conscience, comment parler de quelqu'un comme vivant? Hadès est dans ce schéma le nom qu'on donne à l'endroit intermédiaire où on attend la résurrection. J'aimerais vous donner quelques passages pour montrer que c'est un endroit qui n'est pas encore ni le ciel ni l'enfer. Mais c'est un état intermédiaire. Ces passages que je vous donne sont pour moi assez clairs, mais je sais que ça peut être discutable, et je suis prêt pour changer mon avis concernant cela s'il y a une raison. Mais au moins, j'aimerais vous donner mon idée concernant cet état intermédiaire. Parce que nous avons d'abord dans Jean 14, versets 1 à 3, ce que Jésus a dit à ses disciples. « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Je crois que c'est la deuxième venue de Jésus, la venue finale. « Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, ce n'est pas quelque endroit où on va tout de suite après la mort, mais c'est un endroit, c'est là où Jésus est maintenant. C'est un endroit où on va après la deuxième venue de Jésus, la venue finale, c'est-à-dire après la résurrection. Mais dans les Actes chapitre 2, verset 34, nous avons cette prédication de Pierre où il parle de David et il dit « Car David n'est point monté au ciel. » Mais David est mort. Il est où? S'il n'est pas monté au ciel. Dans Luc 23, 43, Jésus lui répondit, en parlant au brigand, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est allé quelque part quand il est mort sur la croix, et le brigand aussi, même endroit. Mais c'était où? Plus tard, 3 jours plus tard, dans Jean 20, 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas. « Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il y avait quelque part où Jésus est allé avec le brigand qui n'était pas encore le ciel, l'endroit de son Père. Nous avons dans Éphésiens l'indice clair que c'est le ciel où se trouve le Père et Jésus avec maintenant. Dans les Actes chapitre 2, 27, c'est une citation d'une prophétie. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et c'est le mot Hadès. Alors dans ce cas, nous avons Jésus qui n'était pas abandonné dans cet endroit-là parce qu'il y avait la résurrection. Jésus n'est pas encore monté au ciel, alors il était dans cet endroit qui est appelé Hadès. Mais dans cet endroit, selon Luc 16, il y avait une séparation, mais deux endroits dans un, si on veut le dire, parce qu'il y avait Lazare dans le sein d'Abraham, il y avait l'homme riche dans les tourments. Je sais que c'est une manière visible humaine pour regarder les choses. Mais au moins, il y a des indices, il me semble, que nous avons l'idée que le ciel est un endroit pour les corps immortels et pour la vie éternelle avec le Père. Mais avant cela, avant la résurrection, quand le corps est glorifié, semblable au corps de Christ, qu'il y a l'esprit ou l'âme qui est toujours consciente. Et entre-temps, l'esprit ou l'âme désincarné attend la résurrection du corps et on est toujours avec le Christ, comme Paul le dit dans Philippiens 3, 20. Mais l'idée est que Christ, qui tient toujours les siens avec lui après la mort, il revient avec eux pour prendre possession du corps ressuscité, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 et 14. Alors par cela, on voit qu'il y a une attente, mais une attente consciente, jusqu'à la résurrection, le jugement final, le moment quand nous sommes à jamais avec le Seigneur, si nous sommes des élus, c'est-à-dire appelés par l'Évangile et soumis à cet Évangile. Et il y aura, comme on va voir maintenant, concernant l'enfer, un autre endroit qui aussi est éternel. Voyons cela maintenant par la suite, quelques points concernant l'enfer, et après cela, on termine. Ce mot « enfer » vient d'un mot latin qui signifie « inférieur ». Le mot est la traduction du mot grec « géhenne ». Alors c'est comme cela, nous avons « l'enfer » en français. Ce mot est en fait la transcription du mot hébraïque « Gehenon », « vallée de Hénon », qui désignait le lieu maudit où Israël et ses rois infidèles avaient brûlé leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, un dieu de ce temps-là. On a le passage dans 2 Rois 23, 10 qui montre cela. À l'époque de Jésus, on y consumait les odeurs de Jérusalem. Et à cause de ces immondices qu'on y brûlait, la vallée d'Hinnon devint un symbole de péché, d'affliction. Son nom finit par désigner un lieu d'éternel châtiment. Mais on peut aller jusqu'à Ésaïe pour trouver cette même idée. Nous avons dans Ésaïe chapitre 33, 14, cette expression. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes? Et maintenant, il y a un changement, vous voyez, de flammes éternelles. Bien sûr, il y avait des déchets brûlés en dehors de Jérusalem. Et il y avait un nom pour cela, Géhenne, la vallée de Hénon. Mais quand on commence d'utiliser l'expression les feux éternels, on voit bien que la réalité est changée maintenant dans le symbole. Et le symbole de cet endroit est devenu quelque chose de différent de l'endroit. Et c'est justement cela qui se passait. Maintenant, ces feux, l'odeur, le verre, toutes ces choses pourries sont devenues symboles de l'enfer. Ou le géhenne spirituel, disons. le GN de la Bible. Il y a dans la Bible plusieurs passages qui montrent que l'enfer est quelque chose de global, parce qu'il y a tant d'expressions qui donnent une description de ce qui est l'enfer. Et ça vaut la peine d'écouter un moment ces expressions. Et pour la plupart, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. C'est le bûcher enflammé, les flammes éternelles, le ver qui ne meurt point, la fournaise ardente, le lieu des pleurs, les grincements de dents, le châtiment éternel, les ténèbres, la colère à venir, d'or, les tourments, la ruine éternelle, la condamnation, la peine, la destruction, le reniement, l'anathème, la malédiction, la rétribution, malheur, la privation, le feu et le soufre, les temps de feu ardent, la seconde mort. Voilà quelque chose qui nous effraie, au moins je l'espère. Et nous avons besoin de cela, de savoir la justice de Dieu. Combien le péché est horrible pour avoir comme fin quelque chose avec ces termes comme celle-ci. Et c'est pour à jamais, pour l'éternité, cela. Comme j'ai lu dans Ésaïe, déjà dans l'Ancien Testament, il parle de ces flammes éternelles. Dans Daniel 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se révéleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour la propre, pour la honte éternelle. Matthieu 3, 12, il brûlera la paille. Jusqu'avant, il a parlé du blé, qui étaient les fidèles. Il brûlera la paille, les impies, dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 25, 41 et 46. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci, c'est-à-dire les impies, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà, de ce passage vient un commentaire de... c'est un homme qui était athée d'abord, ensuite il est devenu agnostique et ensuite croyant. J'ai lu son histoire qui se passait il y a 100 ans dans un livre qui bien sûr n'est pas imprimé maintenant, mais j'ai lu cela, première série de sermons publié en 1860. Il a dit: j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas trouver les peines éternelles dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas réussi. Quand j'ai entendu Jésus me déclarer que les méchants iront aux peines éternelles et les justes à la vie éternelle, et quand si les peines des uns seront éternelles dans le même sens que la félicité des autres, j'ai cédé, j'ai courbé la tête, j'ai mis ma main sur la bouche, j'ai cru aux peines éternelles. Les témoins de Jéhovah considèrent cette doctrine, cet enseignement, comme une doctrine qui vient du diable. Mais justement, c'est le diable lui-même qui va subir cette punition. Et bien sûr, il essaie par tous les moyens possibles de changer ses croyances parce qu'il ne les aime pas. Les témoins de Jéhovah avancent quatre raisons pour nier l'enfer. Je donne la liste ici. Cette doctrine serait, selon eux, contraire aux Écritures. Alors, nous avons déjà regardé quelques passages. Il y a des passages donnés sous B, si vous suivez le schéma, le plan. Tant de passages, et pour la plupart, dits par Jésus lui-même, concernant ce qui est l'enfer. Mais il y a trois autres raisons qui sont, selon les critères humains, contraires à la raison, opposé à l'amour de Dieu, incompatible avec la justice. Ce matin, c'était mentionné que les témoins de Jéhovah utilisent beaucoup la logique, la raison, le raisonnement comme critère pour juger la parole de Dieu. Et c'est justement le contraire qu'il faut. Bien sûr, il y a des mystères. Ils disent qu'il n'y a pas de mystère dans la Bible. Et comme Yann a dit ce matin, justement, il commence de citer quelques-uns. Mais en plus de cela, si nous-mêmes, nous essayons de juger la parole par nos raisonnements, qu'est-ce qu'on a? On a justement ce qu'ils disent, on va être des dieux. On se dit, je suis Dieu, dans le sens que c'est moi qui juge la parole de Dieu par mes raisonnements. Alors si je dis, l'enfer n'est pas raisonnable, je peux le dire. Et même selon mes critères, c'est juste, je peux le dire. Mais si la parole de Dieu dit autre chose, qui a raison? Qui peut donner sa parole contre la parole de Dieu? Alors il y a deux choses, la justice de Dieu. J'aimerais savoir, si quelqu'un comme Hitler traverse toute sa vie, il arrive à la mort, il est mort. Il est ressuscité après un temps, il a une autre possibilité, et même une troisième. Et même si il ne choisit pas Dieu, il est toujours rebelle, qu'est-ce qui arrive? Rien. Rien du tout. C'est assez réconfortant, n'est-ce pas? On peut faire n'importe quoi, même deux fois, même trois fois, comme possibilité, et enfin, rien. C'est cela la justice de Dieu? Je me le demande. L'amour de Dieu. L'affirmation que je fais maintenant, c'est que l'enfer, c'est un des signes les plus importants de l'amour de Dieu. L'enfer, la peine éternelle, c'est un signe de l'amour de Dieu. Pourquoi? Dieu ne force personne de l'accepter. Les rebelles n'aimeraient pas aller au ciel. Et Dieu ne force personne de faire autre chose qu'il veut. Il n'y a qu'une chose qu'on a à soi-même, sa propre volonté. Toute autre chose appartient à Dieu, mais j'ai ma volonté. Et Dieu m'a donné cela. Il m'a donné le droit, la possibilité, devant lui, devant la vérité de l'univers, et de l'homme lui-même, de dire non. Et Dieu a fait l'homme comme cela parce qu'il l'aime. Et l'homme, si il va à l'enfer, c'est parce que lui-même, par ce don de sa propre volonté, donné par l'amour de Dieu, a choisi d'y aller. Et Dieu n'est pas être accusé. Je vais terminer par une lecture de Romains chapitre 2. Dans ce passage, on a un petit résumé de tout. Chapitre 2, versets 3 à 11. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait? Que tu échapperas au jugement de Dieu. Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa bienfaisance, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Autant que le ciel est à jamais, autant l'enfer est à jamais. Et c'est parce que Dieu est juste et parce qu'il nous aime.